L'âge bête sur RCN.
Bienvenue dans l'âge bête sur RCN, il est 14h, cette émission est enregistrée depuis Pont-à-Mousson au lycée Marquette. Bonjour tout le monde.
Salut.
Comment vous allez aujourd'hui?
Ça va et toi?
Ça va, c'est incroyable, il fait beau, il commence à refaire chaud, donc tout de suite on est content. Je vais vous demander vos chroniques aujourd'hui, donc on va commencer avec Louise qui va nous parler de la Dame Blanche.
Alors non, aujourd'hui c'est les fées celtiques, c'est la semaine prochaine la Dame Blanche.
Ah pardon.
Mais c'est pas grave, comme ça vous savez.
Ensuite on enchaînera avec Tess, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Moi je vais vous parler des blagues de poissons d'avril qui ont mal tourné.
Oh, ça fait
génial.
Très intéressant. On écoutera aussi Antonin et son quiz de culture générale.
Oui, cette fois-ci c'est bel et bien un quiz.
Parfait.
Ah, super.
Et on finira par Margot qui nous parlera de l'origine des plats.
Exactement.
Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Donc Louise, on t'écoute.
Alors, les fées celtiques, donc c'est de loin des petites créatures qui sont bienveillantes, ailées et popularisées par les contes assez modernes.
Ah, c'est des fées-fées.
Oui, c'est des fées.
Parce qu'en fait, quand tu disais les fées celtiques, je pensais à un effet.
Ah non, les fées, les fées avec les petites, avec les ailes.
Ok, super. Maintenant que je suis dedans, je comprendrai mieux.
Donc, dans la tradition celtique, ces êtres surnaturels sont à la fois fascinants et redoutables. Parce qu'on adore quand ils sont pas que bien ou que méchants. Donc c'est lié aux forces de la nature et au monde de l'invisible, donc parfois des guides, parfois des trompeurs. Elle rappelle un temps où le surnaturel faisait partie du quotidien, où les frontières entre le monde des hommes et celui des esprits étaient bien plus minces qu'on l'imagine en fait. C'est un peu comme tous les contes et les mythes et légendes, ça vient un peu de cette période assez moyenâgeuse. Donc dans la mythologie celtique, les fées sont souvent appelées donc Esh Sidh en Irlande, ou Tailwise Teg au Pays de Galles. Donc elles sont des êtres ailés aux éléments naturels, elles habitent dans les collines creuses, donc qui sont appelées les Sidhs, d'où leur nom. Elles habitent aussi dans les rivières, les forêts denses, ou encore les îles assez mystérieuses. Mais attention, elles n'aiment pas être dérangées, et c'est un point vraiment important. Donc la nuit, elles dansent dans les clairières, elles attirent les voyageurs égarés dans des rondes enchantées. Ceux qui acceptent leur invitation risquent de disparaître ou de revenir des années plus tard, alors qu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir dansé qu'une seule nuit. Mmh. Oui,
c'est étrange.
C'est fun.
Exactement. Donc certaines fées celtiques sont protectrices. On dit que c'est des bennig, des lavandières fantomatiques. Elles annoncent la mort prochaine d'un être cher en lavande, son lit seul au bord des rivières. D'autres, comme les dames blanches, veillent sur les âmes perdues dans les bois. Donc elles ont en fait le nom des fleurs, en fait, les différentes fées. Mais d'autres sont plus redoutables, comme la Leanne Sidh, par exemple, qui est une muse ensorcelante qui inspire les artistes, mais en échange de leur vie. Quant aux Slug, c'est des esprits damés qui errent dans le ciel nocturne à la recherche d'âmes égarées à capturer. Donc en fait, c'est vraiment c'est une grande catégorie, mais en fait, elles sont divisées souvent avec les fleurs pour les reconnaître, et du coup, elles sont plus ou moins, suivant les grandes catégories, plus ou moins gentilles ou méchantes. Et encore, okay. Ça varie, suivant même la fée en elle-même, en fait.
En tout cas, bravo à toi pour prononcer tous ces
ouais,
noms.
Ouais, vraiment.
J'aurais pas réussi.
Alors, c'est un mélange entre de l'anglais, du germain, donc c'est un peu compliqué.
Tu m'étonnes.
Donc, aujourd'hui, encore en Irlande et en Écosse, certaines superstitions liées aux fées persistent. On évite d'abattre un fairy tree, donc les arbres de fées, sous peine d'attirer les malheurs. Les routes contournent parfois d'anciennes collines féeriques par crainte de troubler leur habitante invisible.
Encore actuellement.
Encore actuellement.
Oh,
en fait, c'est des choses qui sont ancrées. Du coup, comme les routes, elles sont déjà créées, elles sont ancrées. Et du coup, après, ça revient aussi sur la protection de la nature au final, parce que les arbres de fées, c'est souvent les grands arbres qui sont aujourd'hui des arbres qui seraient protégés. Et du coup, c'est cette croyance qui fait que on garde, mais aussi d'un point de vue aussi écologique. Donc C'est les deux se mêlent.
Je pense que ça vient de là au début.
Oui, c'est
pourquoi
ça.
Ils ont choisi ces grands arbres-là
parce
qu'ils ont une importance.
Exactement. Donc ces croyances, elles témoignent d'un rapport ancien entre l'homme et la nature. Donc chaque rivière, chaque arbre, chaque pierre pouvait être un passage vers l'autre monde. Et du coup, les fées, elles passaient d'un passage à un autre. Et donc les fées, elles sont à la fois bienveillantes et impitoyables. Et ça rapporte que ça nous explique que la magie, c'est un mystère à jamais. Et que surtout, elles le sont envers les personnes qui ne respectent pas la nature. Donc il faut ne pas les déranger, c'est un peu ne pas déranger les fées, mais ne pas déranger la nature. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un mythe qui persiste encore aujourd'hui avec les enfants. C'est
j'adore
le fait que, de respecter en fait tout ce qui nous entoure, à défaut d'être de subir la colère des fées celtiques. Et moi je pense que je ne m'y risquerai pas.
Je comprends.
Vraiment.
Tout ce que tu nous as dit, je comprends.
Eh ben merci Louise, c'était franchement super. Il y a des significations qu'on connaissait pas et franchement je trouve que le message est fort derrière et c'est franchement.
Après je pense qu'on retrouve des fées celtiques enfin à la base un peu partout donc genre bah dans les Disney, clochettes, tout ça.
Ouais, ouais.
C'est à la base inspiré des fées celtiques en fait.
Mais c'est vrai qu'au Moyen Âge ils vivaient vraiment. On se rend compte que la frontière était peut-être un peu plus mince qu'aujourd'hui.
Bah,
vraiment...
Il y avait énormément de croyances. Du coup, ça laisse place à des milliers de contes et légendes partout dans le monde, en Afrique, en Europe.
Ils n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à croire qu'en la science
c'est
et tout.
Ça. Et aujourd'hui, on a des traces. Et c'est pour ça qu'il y a des fêtes, des choses, des routes qui sont liées à ces croyances. Moi, je trouve ça incroyable.
Et bah, merci beaucoup. C'était super. On va enchaîner avec Tess.
Oui.
Tess, nous t'écoutons.
Alors, hier, on était le 1er avril, donc aujourd'hui, je vais vous raconter 7 toutes petites histoires de poissons d'avril qui se sont plus ou moins mal finies.
Génial.
Parfait.
Donc, déjà, en 1708, Jonathan Swift, c'est un célèbre auteur, il s'est amusé à prédire la mort imminente d'un de ses rivales, enfin d'un auteur rival, qui s'appelle John Partridge. Et le 1er avril, la nouvelle de son décès, elle s'est répandue, quoi. Donc, entraînant la préparation de funérailles, etc. Quoi.
Ah,
jusqu'à ce que, du coup, le fameux John Partridge, il apparaisse en personne, puisqu'il n'est pas mort.
Ouais.
Et tout, donc très vivant. Et sauf que, bah, en 1708, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Donc, malheureusement pour lui, pendant des années, il a dû lutter pour convaincre tout le monde qu'il n'était pas un fantôme, genre.
Ah bah oui, il n'y avait pas de réseaux sociaux et tout.
Pensez-moi, j'existe.
Oui, c'est ça, genre. Voilà. Après, deuxième petite histoire, donc en 2013, il y a une Américaine qui fait croire à sa sœur qu'elle a assassiné son mari et qu'elle a besoin d'aide pour dissimuler le corps.
En 2013 ?
Ouais, en 2013.
Wow.
Donc prise de panique, la sœur, elle contacte immédiatement la police.
Oh merde.
Sauf que l'époux bien vivant, il se retrouve à devoir prouver son existence. Tandis que bah, du coup, la femme, donc l'auteur de la blague, elle va éviter de justesse les poursuites judiciaires pour trouble à leur public, en fait. Parce que on dit pas qu'on a tué des gens comme ça. Voilà, déranger la police et tout.
Mais surtout, c'était sa sœur. Je sais pas si tu caches le corps avec.
Ouais, de ouf. Elle a prévenu la police, sa sœur, elle s'en fout. Hein.
Vraiment, sa sœur, allez, hop.
Ok. Ensuite, troisième histoire. Donc, le 1er avril 2010, les journalistes du quotidien jordanien Al Gad, ils se sont amusés à faire une grosse plaisanterie. Ils ont affirmé qu'il y avait une soucoupe volante qui s'était écrasée dans le désert, située non loin de Amman, donc la capitale de la Jordanie. Donc, ils étaient très loin de se douter de l'ampleur que l'info allait prendre, en fait, puisqu'il y a des troupes qui ont été envoyées à la recherche des extraterrestres. Et le maire de la capitale, il a fait évacuer une partie de la ville et fermer les écoles. Ils ont fait évacuer 13 000 habitants.
À ce point-là ?
Ouais. Autant vous dire que du coup, bah, ces derniers, ils n'étaient pas très heureux quand ils ont appris qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Et il y a une plainte qui a été déposée contre le journal. Et ils ont été obligés de s'excuser publiquement et tout.
En vrai, ils auraient pu avoir largement pire.
Et c'était en quelle année ?
En 2010.
Wow. Ils auraient pu avoir largement pire que des excuses. Hein.
Vraiment. Mais ils ont déplacé 13 000 personnes pour un poisson d'avril, genre.
Après,
énorme.
Je pense que c'était pas le voulu de déplacer des gens. Je pense qu'à la base, c'était
oui,
juste
bah, oui, oui, c'est ça. Ils voulaient faire une vanne, tu vois. Mais au moins, le maire de la capitale, il a bien réagi, quoi. Voilà.
On sait que si ça se passait, il serait préparé au moins.
Voilà. Ensuite, une autre histoire. Donc, en 2014, une femme envoie un SMS à sa fille affirmant qu'une fusillade était en cours dans son campus universitaire. Quoi.
Oh non.
Effrayée, la jeune fille, elle appelle immédiatement le 911. La police, elle débarque sur place et réalisant qu'il s'agit d'un canular et tout, ils arrêtent la mère pour trouble à l'ordre public.
Oh non.
Bah oui, mais en même temps...
Ouais,
c'est un peu mérité,
bah,
quoi.
Surtout
genre,
en Amérique et tout, t'appelles le 911 pour rien. Il y a clairement les flics devant chez toi.
Et puis c'est pas des blagues à faire, en fait. Il y a tellement de fusillades que
c'est pas
drôle.
En plus, sur tout un campus universitaire et tout. Genre,
la patrouille de police, elle a été déplacée inutilement alors qu'ils auraient pu aller ailleurs.
C'est pas drôle, en fait, de dire ça.
Surtout aux États-Unis, quoi.
Voilà, surtout même en France. Là, on envoie un message à nos parents pour dire qu'il y a une fusillade. Je pense que ces poissons d'avril, ça les fait pas rire du tout.
Oui, mais c'est ça. Ensuite, du coup, une autre histoire. Donc, c'est un homme qui va décider de faire croire à son ex-femme qui s'est suicidée sur sa pelouse. Sauf que cette dernière va paniquer, elle contacte les secours qui interviennent en masse. Sauf que l'homme, il est bien vivant, quoi. Il est rapidement interpellé pour avoir fait perdre un temps précieux aux autorités.
Mais à chaque fois, c'est avec les autorités.
Croire... Ouais, c'est ça. Mais en fait, il fait croire genre, qu'il est mort à son ex-femme. Genre, c'est horrible. Tu m'étonnes qu'elle appelle la police.
Attends, comment il l'a fait ? Il est allé dans son jardin comme
ouais, il a fait genre qu'il était mort, genre... Mais je pense qu'elle aurait pu vérifier avant.
Bah oui, aussi.
Elle voit quelqu'un allongé, elle va prendre son pouls.
Oui, je sais
pas. Elle va faire les premiers secours.
Ah, vraiment.
Ok, ok.
Ensuite, on va finir avec deux dernières petites histoires. Donc déjà, en 2015, il y a un poste de police de la région de Manchester qui publie un tweet accompagné de photos de prisonniers en invitant à voter pour celui que vous voulez libérer, quoi.
Non.
C'est un peu ça. Sauf que du coup, c'est une blague d'un goût un peu douteux, surtout que la plupart des prisonniers en question, ils étaient derrière les barreaux pour avoir commis des crimes violents. Et tout ce qu'on dit, le problème, c'est qu'il y a plein de familles de prisonniers qui sont venues devant la prison pour voir leur famille se faire libérer, genre.
Oh merde, c'est horrible.
Ouais, c'est horrible.
Ça aurait été super drôle si c'était pas des vrais prisonniers, si c'était des policiers déguisés
ouais,
en
voilà,
prisonniers.
Genre des trucs un peu fun, limite. Tu vois. Mais genre là, bon. Ok, et la dernière, c'est celle qui est un peu moins drôle. C'est qu'en 1896, il y a John Ahrens, donc c'est un fermier du Tennessee, qui a décidé de faire une bonne blague à sa femme en mettant un masque blanc et en la terrorisant, lui faisant croire qu'il était un vagabond qui s'était introduit au domicile. En mode, il a mis un masque blanc et tout, et il a fait genre... genre il arrive quoi et tout.
À la Halloween
voilà.
Quoi.
Sauf que pas de chance, son épouse a été tellement saisie qu'elle a fait une attaque et qu'elle est décédée plus quelques heures plus tard genre.
Mais non.
Oh non.
Voilà. Et du coup plus tard il a essayé de se suicider lui, ce qui peut se comprendre
mais ouais.
Bon. La pauvre.
C'est horrible.
On notera voilà. Quand même que les pires poissons d'arrive se sont passés aux États-Unis.
Oui, non, vraiment.
Franchement, les pires problèmes, c'est aux États-Unis.
Il y a que la soucoupe volante qui n'était pas aux États-Unis et encore ils ont bien réagi.
Vraiment.
Quand nous on se colle des poissons dans le dos quoi. Enfin, je veux dire.
C'est tout gentil.
Et ben merci Tess. Franchement ces histoires elles étaient super drôles ou horribles. Ça dépend comment on le regarde. Restez avec nous. On enchaîne sur une courte coupure musicale. On entendra Handlebars de Jenny et Dua Lipa.
L'âge bête sur RCN.
Vous êtes dans l'âge bête sur RCN, il est 14h14 et on écoute Antonin et son quiz de culture générale.
Voilà, alors je sais que ça fait plusieurs fois que je fais des bacs et tout, bon, on va se calmer. La semaine prochaine, bon, on en fera un spécial vacances, pourquoi pas, avec plaisir. Mais sinon, voilà, bon, je pourrais en refaire, on verra de toute façon. Il y a plein de thèmes à faire. Mais maintenant, on fait quelques quiz en attendant.
Super.
Première question, un peu plus d'histoire. Charles de Gaulle a démissionné en quelle année du coup ? J'ai préparé des années, mais si vous savez...
Est-ce que quelqu'un sait ?
Alors Charles de Gaulle, il a réété élu...
62, non ?
Alors,
j'aurais dit 62.
C'est mai 68.
Je pense qu'il...
Mai 68, oui. Il me semble qu'il était encore président.
Non, justement, il a démissionné en 68.
C'est année 60.
En tout cas, on est très proche de 68.
67 ?
Bah ouais, 67. Parce que, ou 69. Moi, je pense 69. Que c'est 69. Ah, ouais.
C'est ça.
Mais parce qu'en fait, en mai 70, il y a les mai 68, il y a les manifestations.
Et 69, il a été réélu, c'était ça.
69, il a été...
Okay. T'as vu ça en cours ?
Exactement.
Oui, oui. On l'a vu.
T'es bien calé sur le sujet.
Waouh. Ça fait combien de mois que t'as vu ça ?
Mais 68, on l'a vu
avec... Non, il n'y a pas
avec...
si longtemps que ça.
On l'a vu avec Pay.
Ah, moi, j'ai vu en tronc commun, mais... Oui,
ah non, bah, ça fait, je sais pas, septembre, octobre.
Ah oui.
Waouh, ah bah, vous avez une très bonne mémoire.
On révise, c'est bientôt le bac.
Deuxième question, donc plus... plus géographie, histoire. La région du nord de la Chine est... nord-est de la Chine et s'appelle comment ? Donc, soit Ouais, non, je donne des propositions.
Non, mais je crois que tu peux déjà tout répéter la question parce que.
Ok, je sais, c'était
en vrai. Je bégayer en fait. Désolé.
Non, je comprends. La région du nord-est de la Chine s'appelle comment ?
Ah oui, ok. Chine méridionale.
Non. Ça, ce serait plutôt.
T'as essayé.
Chine, je sais pas.
Donne-nous les propositions.
Première proposition : soit la Mongolie. Deux, la Mandchourie. Et trois, le Tibet.
La Mandchourie.
C'est ça, c'est la Mandchourie, parce que le Tibet, c'est un peu plus...
On a fait par élimination.
C'est vers le sud. Et ouais, c'est ça. Exactement. Troisième question. Lequel fuyait les précursions de l'Église ? 1. Montaigne. 2. Pascal. 3. Descartes.
Pascal.
Ah non.
C'est quoi le titre ?
Lesquels fuyaient les prétentions de l'Église ?
Attends, les titres ?
Ah, non, pardon. Oui, non. Pardon, j'ai pas compris la question.
Ah, ok.
Bah, non. Descartes, je pense.
Qui fuyait les prétentions de l'Église ?
Il était pas contre l'Église ?
Attends, tu peux répéter les propositions ?
Donc, soit Montaigne, soit Pascal, soit Descartes. Qui a qui
Moi, j'aurais dit Descartes.
Montaigne, c'est pas les Lumières ?
Je sais pas.
Ah.
Montaigne, les Lumières, Révolution française.
Oui, mais c'est pas pour ça. Enfin, ça fuit l'Église, mais il y avait quand même des...
Je sais pas, j'irais Montaigne.
Moi, j'irais Descartes.
Eh bah, ben, c'est Descartes.
Voilà.
On dit Descartes ou Descartes ?
Descartes.
Descartes, bon, ok,
mais
bah, je saurais.
Mais t'as pas fait encore.
Ouais, c'est pour ça.
Après... Philo ou pas, je sais toujours pas. Hein.
Quatrième question. Une coda est un terme utilisé par 1. Les banquiers, 2. Les pharmaciens, 3. Les musiciens.
Une coda.
Oui.
C'est pas une voiture.
Musiciens.
Ouais, c'est une voiture, non ?
Non, c'est Skoda.
C'est Skoda.
Ah, ok. Bah, je sais pas, les pharmaciens, peut-être.
Les musiciens.
Bah non, il n'y a pas les musiciens.
Si, il y a les musiciens.
Non, il n'y a pas les musiciens.
Si, il y a les musiciens.
Soit les banquiers, soit les pharmaciens, soit les musiciens.
Les musiciens.
Moi, j'aurais dit pharmacien.
Ou peut-être banquier, moi, je veux dire.
Moi, je dis banquier aussi.
Moi, je dis musicien.
C'est musicien.
Ah.
C'est une danse, ça fait partie d'une danse classique qui est le passage final d'une pièce ou d'un mouvement.
Ah, donc c'est plus danse, pas musique.
Oui, voilà. Enfin, oui, mais les musiciens pour les danses, du coup.
Ok.
De classique.
Ok.
Maintenant, va falloir revenir très loin, mais en physique chimie, dans le tableau périodique, j'adore faire ça parce que c'est tellement vicieux.
Oh, wow.
Le signe A majuscule U minuscule est le symbole du.
De l'or.
Alors, un, soit de l'or, mais je crois qu'elle l'a dit en fait.
Elle a dit or, Margot.
Elle vient de dire or, ouais.
Pourquoi ?
Parce que
Margot, elle fait de la physique.
A et U, c'est or ?
Ouais.
Oui.
Ouais. Et donc, mais c'est pas logique, bon. Mais oui.
Ok.
Bon bah merci à Margot qui fait
merci
physique.
Voilà, même pas le temps de... Bref. Sixième question, le tabac a été introduit en France par un... Non, pas en France, juste introduit tout court. Non, en France. Par Margot.
Tu vas y arriver.
En fait, je l'avais barré à moitié, mais je l'ai réécrit après. Le tabac a été introduit en France par Marco Polo, professeur Mégot, 3. Jean Nico.
Alors moi j'aime bien professeur Mégot, alors je vais dire ça juste pour la vanne.
Bah après...
Ça, je ne sais pas.
Je sais pas, peut-être Marco Polo.
Non, moi j'irais le dernier.
Troisième
c'est Jean de Nico.
Ouais, moi j'aurais dit le dernier, ouais.
Ouais.
C'est celui qui paraît le plus...
Ouais, c'est celui qui paraît le plus...
Ouais, je vais dire le dernier
bah,
aussi.
Bah moi je dis Marco Polo, comme ça on en a tous un.
Ok, bah t'aurais pas lu.
Ok.
Donc c'était Jean Nico.
Ouais.
Okay, en fait, ça me fait penser à nicotine parce que il y a le thé à la fin.
Oui.
Je sais pas si ça vient de ça du coup.
Bah peut-être du coup si, sûrement, oui.
Ouais, c'est pourquoi possible. Pas.
Peut-être.
Le pauvre nom de famille. septième question. En 1912, les États-Unis interdisent l'immigration de quoi ? Si vous avez déjà une idée.
En quelle date ? Tu peux répéter.
En 1912.
1912.
On parle de personnes ou d'objets ?
Non, de personnes.
Non, l'immigration.
Je crois que c'est ouais, les...
C'est pas forcément un pays, c'est une catégorie.
C'est exportation, sinon. C'est pas grave.
Je crois que c'est les Irlandais.
Wow. Si c'est ça, par mais... contre, on t'applaudit tous.
Je suis pas sûre, mais c'est parce qu'il commence à avoir les... Parce qu'il commence à y avoir des tensions.
Non, c'est pas les...
Bah, vas-y, fais les
attends,
propositions.
Attends, c'est pas les, genre, Mexicains et tout. Enfin, tous ceux qui viennent d'en
non,
bas.
Non, non,
quoi.
Non, 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 pas du tout.
Vas-y, propose.
C'est soit un, soit les Juifs. Deux, soit les analphabètes. Soit trois, les vieillards.
En Amérique, en
oui,
quelle année
j'ai
dit les Juifs
en, coup, 1920, en 1912.
Bah, en vrai, il y a moyen que ça soit les analphabètes.
Les analphabètes.
Ouais.
C'est bien ça.
Waouh.
Oui, parce ouais, que bon.
Non, parce qu'il y a une grande communauté juive. Tous les Juifs, ils sont après, ouais, bah, oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont aux États-Unis, donc c'était sûr que.
Voilà. Puis bon, voilà, interdire les vieillards, c'est un peu.
C'est un peu extrême, ouais. Je trouve.
Ça se fait
oui. Après, les analphabètes aussi, mais bon.
Ouais.
Quand même.
Oui, non, mais totalement.
De toute façon, c'est les États-Unis, c'est pas.
Eh, pourquoi on clash autant les
États-Unis? Ils vont pas
chercher à ça
va pas.
Parce qu'il y a deux personnes qui font un GGSP ici, c'est pour ça.
Ouais. On est pas ensemble d'habitude.
Huitième question, le premier flipper électronique date de 1, 1915, 2, 1929, 3, 1940, et j'avais envie 4, 1705. Je répète si
un
vous voulez.
Un flipper électronique?
Oui. Soit 1915, 1929, 1940, 1705.
J'aurais dit
1940.
Ouais, 29, moi j'aurais dit. Toi aussi, Margot.
Ouais, moi, j'ai dit 20.
40.
C'était la guerre, les gens, ils s'ennuyaient, moi, je dis.
40.
Petit flipper.
Non, c'est 1920.
Ah. Ah.
Donc aussi pendant la
29
guerre.
Ou 20. Il y avait 20.
Oui, il y avait
oui,
20.
Oui.
Ah, ok.
Il y avait 15, 29, non
15, oh, 15, 29, 40.
Bah, c'est 29, du coup.
Ah.
Oui, c'est 29.
Ah, ouais.
Ah, ah raison, bah, précise, tu me dis 20.
Comment
ah. T'as dit 20, du coup.
Là,
il
tu t'es
mais en fait, j'ai même pas terminé mon mot, vous voyez. Tiens, j'ai oublié un mot dans cette
ce
question.
Ce n'est point grave.
Et quel verbe distingue... bref, voilà. Quel verbe désigne l'accouplissement des oiseaux?
L'accouplement,
non?
L'accouplement.
Je dis quoi?
L'accouplissement.
Mon Dieu.
Je crois qu'Antonin, il est fatigué aujourd'hui.
Vraiment.
Parce que l'accouplissement des oiseaux...
L'accouplement. Non, mais en fait, c'est parce que les S, les M, les N, c'est la même chose.
Ouais, ok, ouais. Je comprends.
Donc, tu peux
soit
répéter
un, ah oui, quel verbe désigne l'accouplissement?
L'accouplement
des oiseaux. 1. Coiffé. 2. Cocher. 3. Clocher.
Oh, je crois que c'est coiffé. Non, je sais pas.
Clocher. C'est quoi le deuxième cocher?
Cocher.
Cocher, je dirais.
Allez, ouais, moi aussi.
Moi,
coché.
Je pense qu'ils cochent ensemble.
Cochent ensemble.
Bah oui, c'est ça. Clocher.
C'est super drôle.
Alors, on va clocher. Ouais, clocher aussi, c'était pas mal. Dixième question et dernière. Quel empereur romain fut assassiné dans son bain? 1. Antonin. j'ai vu cette proposition, j'étais mort de rire. 2. Commode. Et 3. Vespasien.
Wow.
Commode ?
J'aurais dit le dernier.
Vespasien.
Ouais,
lire. Vespasien, je
crois. Comme Urode, je crois. Je sais pas lire.
Bah, faut être sûr.
faut être sûr de toi,
la
salle.
La prochaine fois, je vais tabler au clavier.
C'est compliqué.
C'est ça. Voilà.
Et si... Bah,
donc
du coup, là,
peux
c'est
répéter,
la dernière.
Vous pouvez faire par élimination.
Ouais,
hein.
Moi aussi.
La dernière.
Vespasien. Bah, non, du coup, c'était le fameux Commurode.
Ah.
Je crois que c'est ça.
Commurode. Okay,
ok.
Ok. Ça marche. Bon, on vous précisera peut-être après la pause. Hein, ça...
La vraie prononciation. Ouais.
Exactement. Ouais. Parce que là, c'était voilà, un peu à peu près, on va dire.
Et bah, merci Antonin pour ton quiz. Restez avec nous. On écoute l'Adida de Everglow.
Show me, baby, everglow. offering, let's go.
RCN, l'âge bête.
Vous êtes dans l'âge bête sur RCN. On écoute maintenant Margot qui va nous parler de l'origine des plats.
Exactement. Donc, je vais commencer par la pizza. On pourrait penser que la pizza est typiquement italienne. Je pense que c'est un peu ce que tout le monde pense.
Oui.
C'est vrai, la pizza actuelle vient bien de Naples au XVIIIe siècle. Mais avant ça, elle trouve ses racines dans les plats cuits au four que les anciens Égyptiens, Grecs et Romains mangeaient, en fait. Donc, voilà. Et par exemple, petit fun fact, la pizza Margherita a été créée en 1889 en l'honneur de la reine Margherita de Savoie avec les couleurs du drapeau italien, donc basilic, vert, mozzarella blanc et tomate rouge.
Oh, voilà. Je savais pas. Oh,
bah moi non plus. Ensuite, passons au burger. Donc, bien que les hamburgers soient associés aux États-Unis, l'idée de mettre de la viande hachée entre deux morceaux de pain vient en réalité de l'Allemagne, avec le steak de Hambourg au 19e siècle. Voilà, voilà. Et ce plat a été transformé en une icône de la restauration rapide après l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904.
Et du coup, Hambourg, c'est ce qui a donné le nom du hamburger ?
Oui. Parce qu'en réalité, ça vient de là-bas.
Waouh !
Révélation un peu.
Et ouais. Et les crêpes, maintenant. Les crêpes trouvent leur origine dans les galettes de blé que l'on mangeait depuis l'Antiquité en Europe. Et les crêpes de sarrasin, ou les galettes, elles sont typiques de Bretonne, de Bretagne, du coup, elles sont bretonnes. Okay. Et voilà, petit hommage parce que j'adore ça.
C'est super bon.
Et au Moyen-Âge, elles sont devenues un plat de fête. Et au 19e siècle, en France, les crêpes sont devenues populaires lors de la Chandeleur, donc une fête chrétienne.
Ouais.
Voilà, voilà. Et à l'origine, en fait, les crêpes, c'était un plat pauvre, souvent fait avec des restes de farine. Et ça a évolué pour faire un plat de fête.
Oui, pas forcément quelque chose dedans.
Oui.
Ouais, voilà. Ouais. Et voilà, voilà. Maintenant, pareil, pour laisser mes petites expressions, le sushi. Donc, bien que les sushis modernes arrivent tout juste du Japon, l'idée de sushi remonte à la Chine et a évolué au Japon sous différentes formes, dont le narzushi, donc c'est fermenté, jusqu'à ce qu'il devienne le sushi que nous connaissons aujourd'hui. Et à l'origine, le sushi était une méthode de conservation du poisson en le plaçant dans du riz fermenté, en fait. Donc c'était vraiment pour conserver le poisson à la base. Mais au Japon, la recette, elle a évolué, etc., pour faire les sushis modernes qu'on connaît tous aujourd'hui, depuis les années 1800. Et aujourd'hui, ça se mange partout dans le monde. Il y a même plein de variations que je pense que tout le monde connaît. Oui, et notamment ceux avec l'avocat, en fait. C'est les sushis californiens, par exemple.
Oui, oui.
Ah, c'est les meilleurs, ça, d'ailleurs, je crois.
Voilà. Et pour terminer, le chocolat chaud. Voilà, parce que je ne savais pas du tout. Mais le chocolat chaud est un héritage des civilisations précolombiennes. Donc, c'est les Mayas et les Aztèques qui buvaient cette boisson froide à base de cacao, très épicée, et bien avant l'arrivée des Européens en Amérique, en fait. Et lorsque les Européens ont découvert le cacao, ils l'ont sucré et transformé en boisson chaude plus douce. Donc, en fait, c'est totalement différent. Voilà, parce qu'à la base, c'était froid et épicé, et maintenant, voilà. Et au fil des siècles, on a ajouté le lait et la crème pour obtenir un chocolat chaud crémeux, etc. Et aujourd'hui, on trouve plein de formes variées avec les petites guimauves.
Oh, le meilleur, c'est les guimauves. Incroyable.
Voilà, voilà. Donc, bah voilà, j'ai fini pour moi aujourd'hui.
Et bah merci Margot, tu nous as donné faim, au moins on saura d'où ça vient. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour vos chroniques, on aura appris plein de choses et c'était super intéressant. Salut tout le monde.
Salut.